Manuscrit 64. Le régime alimentaire dans les institutions adventistes est la consommation de viande, de thé et de café. Respecter les normes divines. 1888. Les questions qui se posent sont: comment nos institutions obtiendront-elles le succès? Comment peuvent-elles réaliser un bon travail, un travail qui passera le test du jugement? Jour après jour, Dieu éprouve et examine son peuple. La parole inspirée déclare clairement que c'est par nos œuvres que nous décidons de notre destinée éternelle. Il est évident que le monde devient aussi méchant qu'il l'était avant le déluge. Le Christ a dit qu'il en serait ainsi. On perçoit l'influence de la domination du mal, même dans nos institutions de santé. Même là, l'iniquité qu'ont entretenue les cœurs humains agit à l'encontre de l'œuvre de Dieu qui désire restaurer son image morale chez l'homme. Et, parce que l'iniquité abonde, l'amour de beaucoup, pour Dieu et sa justice, s'est refroidi. Dans nos institutions de santé, on devrait maintenir un principe ferme et décidé, et non une croyance vague. Les bénédictions que Dieu a prévues pour ceux qui seront aussi fermes que la roche dans les principes valent tous les efforts et les sacrifices que nous sommes appelés à faire. Nous devons presser le pas sur notre chemin qui monte vers le ciel, malgré toute l'influence corrompue et mondaine qui s'opposera à chaque étape de la réforme, de la restauration et de la purification que Dieu demande. Les normes du monde ne peuvent jamais être pareilles aux critères du Health Retreat, refuge de santé. Ceux à qui on a confié des principes sacrés et saints devraient prier beaucoup et dans la foi pour avoir la sagesse qui vient de Dieu. S'ils méditent et parlent avec lui, comme c'est leur privilège, ils seront habilités à obéir à sa parole. Ils mangeront de ce pain de vie qui vient du ciel. Prendre une position ferme en harmonie avec le ciel. Mais l'égoïsme a été cultivé. Une haute opinion de soi ne donnera pas force, mais faiblesse. Contrôlons l'appétit, agissons avec intelligence, adoptons et gardons une position ferme, en harmonie avec la lumière que Dieu a donnée. À cause de la perversité du cœur humain, beaucoup de choses qui déshonorent le Seigneur ont été pratiquées. Tous ceux qui ont un rôle à jouer en conseillant ou en éduquant devraient d'abord montrer qu'ils possèdent eux-mêmes cette véritable éducation. Une telle éducation conduira à des résultats pratiques dans le choix et la préparation des aliments pour la table. La viande deviendra-t-elle l'aliment de base parce que les responsables ont appris à aimer un régime camé? Les médecins sont-ils libres de suivre leurs habitudes afin de satisfaire l'appétit comme ils le désirent et d'influencer ainsi les critères de l'institution? Ceux qui ont reçu une grande lumière, qui s'efforcent d'y marcher et de la refléter, verront-ils leur effort contrecarré par à la fois le précepte et l'exemple? Des médecins pour guider vers des sentiers sûrs. Au nom du Seigneur, je témoignais que ceux qui plaident pour l'indulgence pour l'appétit dans la consommation de viande sont précisément ceux qui ont le plus besoin de se réformer et de mettre leur vie en ordre. Ils conseilleront alors moins les patients de manger la chair d'animaux morts, du fait que leur propre appétit est avide de viande. Quand les habitudes et les goûts seront en harmonie avec les justes principes, on verra que la lumière et la vérité guident ceux qui s'efforcent de diriger les âmes pauvres, faibles, complaisante et intempérante. Les médecins devraient éduquer les patients afin qu'ils cessent de consommer des choses nuisibles et montrer le bon chemin sur lequel leurs pieds peuvent cheminer. Si on livre l'esprit des patients à eux-mêmes, beaucoup choisiront bien sûr un régime brut, à base de viande, au lieu des fruits de la terre et des arbres. Quand les médecins s'éloignent des principes de santé, ils n'honorent pas le Seigneur. Quelle que soit l'instruction religieuse, quand on agit ainsi, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Ecclésiaste 10, verset 1. La raison d'être de nos institutions de santé. Nos institutions de santé ont été établies pour présenter les principes vivants d'une alimentation propre, pure et saine. Il faut partager nos connaissances quant à l'abnégation et la maîtrise de soi. Nous devons élever Jésus, qui a créé l'homme et l'a racheté, devant tous ceux qui viennent à nos institutions. La connaissance du chemin vers la vie, la paix, la santé doit être offerte ligne sur ligne, précepte sur précepte, pour que les hommes et les femmes voient le besoin d'une réforme. Ils doivent être amenés à renoncer aux coutumes et pratiques dégradantes qui existaient à Sodome et dans le monde antédiluvien que Dieu a détruit à cause de leur iniquité. Jésus a dit « Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme ». car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, versets 37 à 39. Tous ceux qui visitent nos institutions de santé doivent être instruits. Le plan de la rédemption devrait être exposé devant tous, élevé ou humble, riche ou pauvre. Il faut donner des enseignements soigneusement préparés, selon lesquels la satisfaction de l'intempérance en vogue dans le manger et le boire peut être la cause de la maladie et de la souffrance, ainsi que des mauvaises pratiques qui en découlent. Va-t-on continuer ainsi, en manquant d'informer et d'avertir les victimes? Les jeunes suivront-ils les traces de ceux qui aiment les plaisirs, au lieu des traces de ceux qui aiment le Seigneur? La fontaine qui purifie sera-t-elle présentée à tous? Donnera-t-on au monde le dernier message de miséricorde? N'y aura-t-il pas de fidèles sentinelles pour travailler avec tous les talents que Dieu leur a donnés afin de réformer ceux qui sont dégradés et restaurer chez l'homme l'image morale de Dieu? 5. 6. Our Health Institutions. Nos institutions de santé. 1er février 1888. Dieu appelle à une réforme. Le Seigneur désire que ceux qui ont reçu la lumière concernant les enseignements de sa parole se mettent en marche et déclarent les principes de la véritable réforme. Ils devront affronter et combattre les théories triviales que les gens prennent et avancent. Cas de commun la paille avec le froment. Jérémie 23, verset 28. Il faut donner la proéminence aux grandes vérités de la parole de Dieu. La gloire du Seigneur doit demeurer visible. Son épreuve grande et salvatrice doit avancer. Le Seigneur désire que ceux qui participent à son œuvre soient des hommes à la compréhension spirituelle, des hommes sensés qui suivent ses voies et qui font connaître sa volonté. Leur voix doit retentir au milieu du tapage et de la confusion de l'absence de consécration. Ceux de la synagogue de Satan professeront être convertis et, à moins que les serviteurs de Dieu ne possèdent une vision éclairée, ils ne discerneront pas la puissance des œuvres des ténèbres. Romains 13, verset 12. Le message pour l'église de Laodicée s'applique le plus résolument à ceux dont l'expérience religieuse est fade, à ceux qui ne témoignent pas de manière décidée en faveur de la vérité. Le Seigneur appelle à une réforme dans ses institutions car elles ont été imprégnées de l'esprit du monde. Il lance à tous un appel à rendre un témoignage ferme en faveur de la réforme sanitaire. On ne devrait pas offrir de viande aux patients de nos sanatoriums. Beaucoup ont perdu la puissance du message du troisième ange. L'accomplissement des jugements prononcés il y a si longtemps ne devrait-il pas appeler à un réveil parmi les adventistes du septième jour? Avec calme et confiance, chaque croyant devrait occuper sa place et son héritage, ferme dans la force du Tout-Puissant. Entretien sur l'élimination de la viande aux tables des sanatoriums.
Sir White, on devrait mieux connaître les éléments extérieurs, éduquer et présenter les principes de santé aux gens, afin qu'ils sachent ce à quoi ils doivent s'attendre avant de venir. Je désire vraiment que ceux qui viennent ici puissent voir directement la réforme, et je pense que cela se fera. Je crois que, quand la clientèle est minime, c'est le meilleur moment pour effectuer un changement en ce qui concerne le service de la viande ou la table de la salle à manger. Et cependant, je ne peux pas dire qu'il ne faudrait jamais servir de la viande. Je ne peux pas dire cela. Mais la viande ne devrait pas être servie dans la salle à manger. En Australie, le docteur et le docteur sont venus me demander s'il fallait servir ou non de la viande sur les tables de la salle à manger des institutions médicales. J'ai dit « Pas un seul morceau de viande ne devrait être servi sur ces tables ». Je voulais qu'ils le comprennent. Eh bien, ils ont obtenu le plus grand succès quant au rétablissement des malades, bien plus que ce que j'ai vu dans n'importe quelle institution durant ma vie. Mais aucune particule de viande n'est servie dans la salle à manger. Suppression de la viande, mais sans décision inconsidérée. Dr. Sanderson, que pensez-vous qu'il faille faire ici? Sir White, je pense que la viande doit être exclue de la salle à manger. Mais je ne conseille aucune mesure imprudente ou inconsidérée.
je ne suis pas prête à indiquer exactement comment il faut réaliser la réforme sanitaire. Mais je sais que les aliments camés doivent être écartés de la table. Comment ? Les employés ont-ils de la viande à leur table ? Docteur Sanderson, non. Sir White, bien, je crois qu'il faudrait aussi la retirer de la table des patients, aussi vite que possible. Il ne faut pas non plus attendre longtemps. Des moments viendront où il y aura moins de gens ici, n'est-ce pas ? Docteur Sanderson, l'hiver passé, nous avons eu plus ou moins autant de patients que pendant l'automne. Sir White, vraiment ? J'espère que cela continuera. Mais il faut qu'on instruise, et il faudra mettre plus de force dans l'enseignement donné au sujet d'un régime alimentaire sain. Je ne crois pas que la viande soit admise sur les tables du sanatorium de Battle Creek. Docteur Sanderson. Oh, si, c'est permis. Il y en avait encore quand j'y étais, au printemps dernier. Sir White. Ah oui ? Mais on ne la consomme pas autant qu'avant. Docteur Sanderson. Ici, on n'en sert pas autant qu'avant. Sir White. Je suppose que les patients en demandent. Ou bien la sert-on sur les tables ? Docteur Sanderson. On la sert uniquement quand les patients eux-mêmes en demandent, quand il s'agit d'une requête spéciale. Sir White. Le Seigneur sera pleinement satisfait quand tous nos sanatoriums délaisseront la viande. Nous avons maintenant, plus que jamais, des raisons de ne pas y toucher car les animaux sont malades. Le sujet peut être présenté sous cet angle et cela sera très efficace. La loyauté au principe et à la clientèle. J'ai été expressément contrainte d'écrire quelque chose sur le sanatorium de Sainte-Hélène. Cette institution a été établie sous la direction du Seigneur et elle ne doit pas devenir inutile. Elle doit être une institution puissante à travers laquelle la lumière de la vérité peut briller dans les pays étrangers. Le Dieu qui intervient en d'autres endroits où est établie l'œuvre médicale est le même Dieu qui est prêt à agir au sanatorium de Sainte-Hélène. Sa grande puissance doit être révélée dans cette institution qui doit grandir et atteindre toute la stature que Dieu désire pour elle. N'allons-nous pas nous lever tels de fidèles sentinelles, encourageant les patients à obéir aux paroles du Saint-Esprit, à travers les paroles de l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1, 2. Le Seigneur désire que les membres de son peuple s'avancent sur le front et qu'ils travaillent avec toute leur ferveur, dans la foi et l'amour, pour introduire dans leur vie la plénitude du Christ et l'efficacité accordée gratuitement à tous ceux qui remplissent les conditions établies dans la parole de Dieu. Il faut aller de l'avant. Nous ne devons pas, dans le but d'obtenir plus de patients, engager des médecins ou des infirmières qui n'ont pas l'intention de marcher dans la lumière complète de la réforme sanitaire. Nous devons nous tenir à un niveau élevé. N'établissons pas de sanatorium où les patients viendront afin de satisfaire leur appétit perverti. Nous devons y employer des aides qui se tiendront fermement sur la plateforme de la réforme sanitaire. Un appel fervent à un médecin éminent. Il y a des choses d'une grande importance que je veux vous écrire. Je dois vous dire la vérité. Je vous ai dit la vérité, mais vous ne vous êtes pas approprié les paroles du Seigneur lui-même et ne les avez pas crues. Mon frère, vous avez donné un mauvais conseil et avez prescrit selon vos propres habitudes, votre appétit et vos goûts, alors que vous auriez dû suivre la lumière que Dieu a donnée en vivant selon les justes principes de la réforme sanitaire. Par le précepte et l'exemple, vous auriez pu corriger des habitudes dans le manger et le boire qui corrompent le cerveau, les os et les muscles. Mais, par vos prescriptions, que vous avez rédigées selon vos propres idées, vous avez laissé partir les patients en confirmant leurs appétits erronés qui jettent les fondations mêmes de la maladie dont ils souffrent. Quelle excuse présenterez-vous à Dieu lors du jugement quand vous avez ainsi agi à l'encontre de son œuvre de tempérance ? N'avez-vous pas reçu assez de lumière ? N'a-t-elle pas brillé sur vous et ne l'avez-vous pas ignorée ? Le Saint-Esprit guidera vers la vérité. Si les hommes sont disposés à être façonnés par elle,
ils seront dirigés par le grand capitaine. L'être entier, l'âme, le corps et l'esprit seront sanctifiés par elle. Vous avez tous les deux besoin de l'esprit de compréhension. Ensuite, vous recevrez le Saint-Esprit et le discernerez tel qu'il est, votre conseiller. Nous n'avons rien à craindre si ce n'est de ne pas nous efforcer à entrer par la porte étroite et de ne pas recevoir l'approbation de Dieu. Vivre fidèlement pour le Christ exige bien plus que ce que vous ne supposez. On peut faire bien plus pour sauver les âmes de ceux qui viennent au sanatorium. Les clairs rayons de la lumière doivent briller aussi dans la préparation des aliments, apprenant comment vivre à ceux qui sont attablés. Cet enseignement doit aussi être offert à ceux qui visitent le Health Retreat, refuge de santé, afin qu'ils puissent emporter avec eux les principes de réforme. Ne pas prescrire de thé ni de café. On n'engage pas des médecins pour qu'ils prescrivent un régime camé à leurs patients, puisque c'est ce genre de régime qui les a rendus malades. Frères et sœurs, cherchez le Seigneur. Quand vous le trouverez, vous serez doux et humble de cœur. Vous ne subsisterez individuellement pas sur de la chair d'animaux morts et n'en mettrez non plus aucun morceau dans la bouche de vos enfants. Vous ne prescrirez pas de viande, de thé ou de café à vos patients, mais leur présenterez des conférences au salon en montrant le besoin d'un régime simple. Vous éliminerez de vos menus toutes les choses nuisibles. Le fait que les médecins de nos institutions, par l'exemple et le précepte, enseignent aux personnes dont ils s'occupent à manger de la viande, après des années d'instruction du Seigneur, les disqualifie pour diriger nos institutions de santé. La complaisance envers soi neutralise notre influence. Vous pouvez peut-être faire certaines choses sur le plan religieux, mais leur influence pour le bien sera faible, puisqu'en pratiquant la complaisance envers vous-même et en vivant à l'encontre des principes de la réforme sanitaire, vous neutraliserez l'influence de la vérité. Chez une personne de votre position, l'indulgence sur votre propre appétit est absolument incohérente. Vous savez que les principes de la réforme sanitaire ont la plus haute autorité et une sphère plus large que celle que leur ont accordée jusque-là les nombreuses personnes qui professent la vérité présente. Chers frères, chères sœurs, je regrette tant que vous n'ayez pas reçu comme quelque chose de supérieur à vos idées et à vos propres opinions la lumière que le Seigneur m'a donnée ces dernières années. Si vous aviez cru et agi conformément à la lumière donnée, quel changement aurait eu lieu en vous? Mais la forte idolâtrie dont vous faites preuve par vos propres opinions, vos habitudes et pratiques, a réellement fermé la porte de votre cœur à la lumière et aux avertissements et réprimandes de Dieu. Vous avez largement suivi vos propres voies, comme si vous étiez décidé à faire de ces messages quelque chose de faux. Le Seigneur n'accorde pas sa lumière sur la réforme sanitaire pour qu'elle soit méprisée par ceux qui occupent des postes d'influence et d'autorité. Le Seigneur sait exactement ce qu'il dit et il faut honorer ses paroles. Il aurait fallu ne pas laisser passer une semaine au Health Retreat, refuge de santé, sans gérant compétent pour fixer les tarifs pour les patients et les visiteurs et pour établir les menus. Ceux qui ont toujours mangé de la viande doivent être restreints à ce sujet. Mais, si le médecin-chef et sa famille ne sont pas des réformateurs sur ce point, ils ne peuvent enseigner aux autres à renoncer à la viande. La lumière doit être présentée dans ce sens et sur tous ces sujets. C'est justement la question de l'alimentation qui exige des recherches détaillées et les prescriptions doivent être données en accord avec les principes de santé. Durant les 25 dernières années, j'ai donné des témoignages à ce sujet. Je suis chagriné de voir que vous vous accrocherez à vos habitudes et pratiques bien établies en refusant de faire des changements. Combien de temps vous faudra-t-il pour avoir une perception claire et sensée des requis essentiels de la réforme sanitaire? Vous n'étudiez pas assez ce sujet en profondeur ou n'y pensez pas assez? La viande n'est pas indispensable en cas de faiblesse. J'ai reçu vos lettres et vais maintenant répondre à quelques-uns des points qu'elles contiennent. La docteure A m'a demandé si, dans certains cas, je conseillerais qu'un patient prenne un peu de bouillon de poulet s'il est malade et que son estomac ne tolère rien d'autre. J'ai dit, il y a des malades qui souffrent de phtisie et qui, s'ils le demandent, devraient en avoir. Mais je serai très prudente. L'exemple ne devrait pas faire du tort au sanatorium, ni devenir une excuse pour que les autres pensent que leur cas exige le même régime. J'ai demandé au docteur A s'il y avait un tel cas au sanatorium. Elle a dit « Non, mais j'ai une sœur au sanatorium de Warunga qui est très faible. Elle a des épisodes de faiblesse et d'étourdissement, mais a cuisiné le poulet qu'elle peut manger. » J'ai dit « Il vaudrait mieux qu'elle quitte le sanatorium. » Elle m'a répondu « Son mari travaille au sanatorium comme médecin. » J'ai trouvé la femme du docteur B, à Washington, dans les mêmes conditions que la sœur du docteur A. On disait qu'elle ne pouvait rien manger, sauf de la viande, et que son sang devenait de l'eau. Mais la lumière que j'ai reçue indique que son impression de devoir se nourrir à base de viande était incorrecte. Il m'a été indiqué qu'elle se plaçait mentalement dans une disposition où elle ne devait pas être. Si elle abandonnait la consommation de viande pendant un an, les conditions dans lesquelles elle se trouve maintenant changeraient et son organisme aurait alors l'occasion d'agir à son sain rétablissement. Si elle surmontait le désir de manger de la viande, elle pourrait être en bien meilleure forme et vivre pour glorifier le Seigneur. Selon la lumière qui m'a été donnée, si la sœur mentionnée se reprenait et éduquait son palais à une alimentation saine, tous ses épisodes de vertige disparaîtraient. Elle a cultivé son imagination. L'ennemi a tiré parti de sa faiblesse physique et son esprit n'est pas prêt à supporter les difficultés de la vie quotidienne. Elle a besoin d'une thérapie bonne et sanctifiée de l'esprit, d'une augmentation de sa foi et d'un service actif pour le Christ. Elle a aussi besoin d'exercer ses muscles en effectuant des travaux pratiques à l'extérieur. L'exercice physique sera pour elle un des meilleurs bienfaits de sa vie. Ce n'est pas d'être invalide dont elle a besoin, mais d'être une femme saine de corps et d'esprit, prête à jouer son rôle d'une manière noble et bonne. Tout traitement qu'on pourra administrer à cette sœur aura peu d'effet si elle ne fait pas sa part. Elle a besoin de fortifier ses muscles et ses nerfs au moyen d'une activité physique. Elle ne doit pas être invalide, mais peut faire beaucoup et bien. On ne servira aux patients ni thé, ni café, ni viande. Concernant votre déclaration selon laquelle le docteur viendrait aider au sanatorium de Warunga, sous certaines conditions, et le privilège de servir n'importe quel aliment qu'il pourrait désirer servir à table, je dirais qu'il vaudrait mieux ne pas accepter les services de ceux qui ne viendraient qu'à condition que ces termes soient accordés, car de telles conditions pour leur engagement sont la preuve que vous ne voulez pas d'eux. Ils deviendront pour vous un sujet de perplexité plus qu'une aide. Toute personne faisant de telles propositions vous causera, je le crains, plus de soucis et de problèmes que vous ne pouvez vous le permettre. Ne permettez jamais au docteur de s'unir à l'institution en croyant que du thé, du café ou de la viande seront servis à ses patients. Au sujet de la viande, je sais que si des hommes comme le docteur se joignaient à l'institution, vous ne pourriez pas aborder cette question sans beaucoup de soucis et de perplexité. Nous vivons à une époque importante et solennelle. L'effort pour construire le sanatorium a été immense et nous ne pouvons nous permettre de nous lier à ce qui deviendrait une entrave à son travail et un préjudice pour sa réputation. Quant à la viande, n'en apportez pas au sanatorium de Warunga. Le thé et le café non plus ne devraient pas être servis. Au lieu de ces boissons nuisibles à la santé, on peut servir des boissons de céréales torréfiées, préparées de manière aussi appétissante que possible. Quant au troisième repas, n'obligez pas les gens à ne prendre que deux repas par jour. La santé de certains est meilleure en prenant trois repas légers, et quand on les limite à deux, le changement se fait sentir trop sévèrement. Il se peut que vous n'ayez pas au sanatorium un grand nombre de patients pour commencer, mais ne vous découragez pas. Gardez-vous de créer préjugés. Les ouvriers doivent faire très attention d'éviter tout ce qui pourrait faire que la vérité soit mal comprise ou mal représentée. Autrement, ceci provoquera des préjugés contre elle. Quand nous le pouvons, faisons des concessions. Puissions-nous ne jamais dévier d'un cheveu des principes que Dieu a établis pour nous guider. Cependant, nous devons nous garder de les soumettre à des critères humains. Quand il est évident que certaines méthodes ne sont pas favorables à l'œuvre du sanatorium, nous ne devons pas continuer à suivre ces méthodes, surtout si la parole de Dieu ne l'exige pas. Nous devons être prudents même dans le maniement de la vérité. Autrement, elle pourrait avoir un goût trop fort. Le thé, le café et la viande servis uniquement dans les chambres. Ne fixons pas de règles dans l'idée qu'elles ne seront jamais changées ou modifiées. Dans nos sanatoriums, il faut observer le Saint Sabbat du septième jour.
il ne faut servir ni thé, ni café, ni viande, sauf dans le cas particulier où le patient en fait spécialement la requête. Ces aliments lui seront alors servis dans sa chambre. N'imposons rien que la Bible n'exige pas. On fera tous les efforts réalisables pour gagner la confiance des patients, pour que leur cœur soit touché par la vérité. Les ouvriers doivent se rapprocher d'eux le plus possible, en les invitant sous le soleil de l'amour du Christ. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Jacques 3, verset 17. Satan cherche à paralyser notre œuvre. Nous devons tous faire attention à ne pas adopter de point de vue extrémiste sur la réforme sanitaire. Le Seigneur désire tous nous diriger avec douceur et cohérence. C'est l'ennemi qui cherche à nous pousser à des extrêmes, et il serait heureux de voir que les défenseurs consciencieux de la réforme sanitaire exigent ce que Dieu n'a pas demandé. Il serait heureux de mettre sur leur propre table et sur celle du sanatorium des aliments qui ne soient pas acceptables. Que ceux qui viennent au sanatorium ne puissent voir que les adventistes du 7e ont perdu leur bon sens. Nos institutions doivent renoncer à la viande. C'est un grand pas pour les mondains. Il faut donner à nos patients et visiteurs des aliments simples, appétissants et sains qui garderont l'organisme en bonne santé et élimineront toute excuse pour consommer de la viande. Si des arguments sensés sont employés, de nombreux changements auront lieu. Mais si on retire le lait et les œufs, quel genre d'alimentation sera présenté? Que personne ne considère cette question amoindrisse le besoin de la réforme sanitaire. Il ne s'agit pas moins que de tisser des fils de manière à ce que la réforme sanitaire soit représentée à juste titre. En tant qu'adventistes du septième jour, nous n'avons maintenant pas le droit d'imposer de règles strictes aux gens. Quand ce que nous mettons sur notre table pourrait devenir nocif à la santé et à la vie, Dieu nous le révélera. Ne pas éclipser le message du troisième ange. Le moment est arrivé où la réforme sanitaire doit être appréciée à sa juste valeur par beaucoup, parmi les classes les plus aisées comme les plus modestes. Mais que rien n'éclipse le message que nous devons proclamer, le message du troisième ange relié au message du premier et du deuxième ange. Ne permettons pas à des choses secondaires de nous enfermer dans un cercle réduit qui nous empêchera d'accéder au public en général. L'Église et le monde ont besoin de toute l'influence, de tous les talents que Dieu nous a donnés. Tout ce que nous avons devrait être affecté à son utilisation. En présentant l'Évangile, laissons de côté toutes nos opinions personnelles. Notre message est de portée mondiale, et le Seigneur veut que ses serviteurs gardent de manière sacrée la confiance qu'il leur a donnée. Il a confié à chacun une mission. Ne présentons donc aucun faux message. Que la grande lumière de la réforme sanitaire ne soit pas déformée au point de devenir quelque chose d'incohérent. Les incohérences d'un seul touchent tout le corps des croyants. Par conséquent, quand quelqu'un adopte des extrêmes, cela fait beaucoup de tort à la cause de Dieu. L'alimentation et les patients. Ceux qui viennent à nos sanatoriums pour être soignés devraient recevoir une provision généreuse de nourriture bien cuisinée. Il sera nécessaire que les aliments placés devant eux soient plus variés que ce qu'on servirait à une famille, dans un foyer. Que le régime soit de nature à donner aux visiteurs une bonne impression. C'est là une question de grande importance. Les patients seront plus nombreux au sanatorium si on leur sert un menu abondant, varié et appétissant. À plusieurs reprises, je me suis levé de la table de notre sanatorium sans être satisfaite ni rassasiée. J'ai parlé aux responsables de l'institution et leur ai dit que le menu devait être plus généreux et la nourriture plus appétissante. Je leur ai demandé de mettre leur ingéniosité à l'œuvre pour apporter les changements nécessaires de la meilleure manière possible. Je leur ai dit de se rappeler que ce qui peut-être irait au goût des réformateurs de santé ne satisferait pas du tout ceux qui ont toujours mangé ce qu'on considère comme des mets exquis. On pourrait apprendre beaucoup des repas préparés et servis dans un restaurant d'aliments sains à succès. Frères et sœurs, si vous ne prêtez pas attention à cette question, le nombre de patients diminuera au lieu d'augmenter. Le danger existe d'aller aux extrêmes dans la réforme d'un régime alimentaire. Les patients payent un bon prix pour leur nourriture, et ils devraient en recevoir une bonne quantité. Il se peut que certains viennent au sanatorium dans des conditions qui exigent de renoncer strictement à leurs appétits et de manger de la manière la plus simple. Mais, à mesure que leur santé s'améliore, on devrait leur servir des plats généreux et nourrissants. Il se peut que vous soyez surpris que j'écrive ceci, mais la nuit dernière, il m'a été indiqué qu'un changement dans le menu ferait une grande différence dans le nombre de patients. Il faut servir une nourriture plus abondante. Offrir des cours de cuisine. Le Seigneur s'attend à ce que nos sanatoriums éduquent sur la manière de cuisiner et de manger sainement. Préparer une grande quantité de nourriture pour un repas est une erreur. Quelques ingrédients, préparés avec soin et servis de manière appétissante, sont tout ce qu'il faut. Les produits camés ne sont pas nécessaires, car ils ne sont pas ce qu'il y a de meilleur pour l'estomac humain. Souvent, les animaux vendus au marché sont malades. Je vous dirai comment nous avons abordé la question de la consommation de viande en Australie. Sarah McEnterfer, qui avait été mon infirmière jusqu'au moment de mon départ d'Amérique pour l'Australie, ne nous a pas accompagnés, car elle était tombée malade. Après s'être plus ou moins rétablie, elle a servi au sanatorium et a acquis plus d'expérience dans les soins aux malades. Quand, plus tard, elle nous a rejoints en Australie, à Kurrumbong, où nous nous sommes installés, elle a eu tout le loisir de mettre sa connaissance en pratique pour soigner les malades et les blessés. Proposer un régime qui donne plus de force. Vous ne vous préoccupez pas assez et considérez à la légère la question d'offrir un repas régulier et suffisant à vos employés. Ils sont ceux qui, justement, ont besoin d'un repas abondant, frais et sain. Ils fournissent des efforts soutenus et leur vitalité doit être préservée. Il faut éduquer leurs principes. Parmi tous ceux qui sont au sanatorium, c'est eux qui devraient recevoir la nourriture la meilleure, mais aussi fortifiante et en abondance. La table de vos assistants doit être pourvue non pas de viande, mais d'une provision abondante de bons fruits, de céréales et de légumes, préparés de manière appétissante et saine. Votre négligence dans ce domaine a augmenté vos recettes, mais au grand détriment de leur force et de leur âme. Ceci déplaît au Seigneur. L'influence de tout le régime ne recommande pas vos principes à ceux qui s'asseyent à leur table. Si vos assistants sont dignes d'appartenir à votre famille, ils sont dignes de la meilleure alimentation, celle qui donne des forces, et cette semence ne sera pas plantée dans leur poitrine pour germer et produire une moisson qui déshonore le Seigneur. Mais c'est pourtant ce qui a été fait, et il faut s'en occuper. En plus de leur parler d'égalité, il faut la pratiquer. Les principes du début restent importants aujourd'hui. À nouveau, il m'a été montré que tous ceux qui s'occupent des malades, dans nos sanatoriums, doivent se souvenir que ces institutions ont été établies pour une œuvre particulière, et qu'elles doivent être gérées d'une manière qui honorera Dieu. Patrimoine White,